ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Comme à la radio, on va rattraper un retard. Et oui, depuis que nous faisons cette émission, on n'a pas souvent abordé un thème qui est pourtant une des clés du jazz et de son histoire, c'est le blues. Alors le blues, c'est un monde, un univers, et c'est l'âme du jazz. Mais bon, c'est pas toujours évident, Alex, de faire la part des choses entre ce qu'on appelle le jazz, ce qu'on appelle le blues au sens large, au sens étroit, etc., etc. Alors, tu peux nous éclairer un petit peu ?
Oui, bah écoute, il y a une phrase très simple. Le blues, c'est 3 accords devant 1000 spectateurs. Et le jazz, c'est 1000 accords devant 3 spectateurs. Voilà, c'est la principale différence entre le jazz et le blues. Bon, au-delà de cette boutade qui n'est pas complètement fausse, on dit de temps en temps que le blues est en perte de vitesse, que le blues est en train de s'éteindre. Et pourtant, chaque fois, le blues renaît, le blues est increvable. Que les temps soient techno, grunge, hardcore, le blues est toujours là, comme au début du siècle dernier, avec les mêmes 12 mesures immuables, avec les mêmes chansons qui parlent de peine, de souffrance, d'espoir, de joie, qu'on le considère comme une musique sacrée ou comme une musique du diable. Le blues est la musique qui parle au cœur de chacun. Alors, on sait qu'il est issu des rives boueuses du Mississippi, du Sud profond. Et en fait, c'est vrai que le blues a longtemps accompagné l'histoire du peuple noir américain. Il a accompagné l'exode urbain vers les grands centres industriels, vers les abattoirs de Chicago, vers les chaînes de montage de Détroit, au son des guitares annonçant de nouveaux orages. Mais quelles que soient les circonstances, le blues accompagne notre vie, votre vie, comme une bande de son, traînante ou rapide, enjouée ou pleine de spleen, suivant les instants, suivant les humeurs. C'est ce qui a fait, qui fait et qui fera sa force, son pouvoir d'attraction sur les générations passées, présentes et à venir. Et donc aujourd'hui, au travers de quelques extraits, vous trouverez ceux qui ont marqué l'histoire de cette musique plus essentielle et plus moderne que jamais. Alors, nous allons commencer par écouter un grand, un très grand bien sûr, mais un Français, Django Reinhardt, qui va jouer ce qui a été vraiment un des morceaux qui ont le plus marqué l'histoire du blues, c'est le Saint Louis Blues. Thank you.
Le blues, c'est du blues que nous parlons aujourd'hui. Et Alex, puisque tu nous racontes un peu cette histoire, et avec Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, et leur façon de s'approprier ce blues déjà en 1935 d'une façon particulière. Et donc le blues, ça veut dire en fait peut-être différentes choses. On parlait des chants tout à l'heure, mais le blues c'est aussi jusqu'à nos jours dans la composition de morceaux très modernes. Et finalement, le mot blues, d'où il vient, qu'est-ce qu'il signifie?
Alors, ouvrons le dictionnaire. Blues, complainte du folklore noir américain au rythme lent qui est directement à l'origine de la musique de jazz. Un petit slash, deuxième explication, terme familier qui signifie cafard, mélancolie, idée sombre, deux points, avoir le blues. Bon, avec ça, on n'est quand même pas complètement avancé. Si on prend un dictionnaire français niçois, on trouvera blues babarota, c'est-à-dire le cafard tout simplement. Mais au-delà de son aspect purement musical, le blues, c'est autre chose. C'est une musique dont l'histoire s'est nourrie des évolutions sociales, historiques, politiques et culturelles de ce XXe siècle. Si le blues, cette musique née des work songs des premiers esclaves africains sur le sol américain, a enfanté pratiquement tous les courants musicaux que l'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, « musiques actuelles », on ne peut comprendre son épopée sans la replacer dans ce contexte social et historique. L'émigration, la traite des Noirs, la ségrégation, l'exode rural, l'urbanisation, les crises, les guerres, les luttes pour les droits civiques n'auront eu de cesse de façonner l'évolution du blues et d'écrire les pages d'une des plus belles et passionnantes aventures du XXe siècle. En fait, le terme blues, pour répondre, Laurent, complètement à ta question, ça vient de l'abréviation de l'expression anglaise « blue devils », les diables bleus, qui signifie « les idées noires ». Alors, c'est amusant aussi, en étymologie, le terme « blue », d'où le blues est aussi dérivé, ça vient de l'ancien français, et ça signifie une histoire personnelle. Pour tous les bluesmen, effectivement, la signification du blues, c'est une chanson à la première personne du singulier. Et il reste en français un mot qui rappelle cette histoire bleue, c'est le mot bluette. Une bluette, c'est quelque chose qu'on raconte à la première personne du singulier, qui est souvent un petit peu triste. Voilà la signification du mot blues. Et pour l'illustrer, on va changer et on va écouter deux morceaux, l'un à la suite de l'autre, de Thelonious Monk en premier, qui va interpréter Bluesphere, et ensuite un autre musicien, c'est Miles Davis, qui va interpréter à sa manière un autre morceau de Monk, Strike No Chaser. Donc nous commençons par Thelonious Monk, Bluesphere. Thank you. voilà, après avoir écouté Monk, extraordinaire Monk, extraordinaire compositeur, on écoute encore du Monk, mais cette fois-ci, un blues joué par Miles Davis, Tight No Chaser.
Le blues sur RCF aujourd'hui pour votre émission de jazz hebdomadaire comme à la radio que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur le site rcf.fr. Et le blues donc, tu nous racontes aujourd'hui Alex avec ces superbes morceaux qu'on vient d'entendre de Monk, de Miles Davis. Et finalement cette forme musicale elle est ancrée dans l'histoire du jazz, et elle fait partie de la vie courante de tous les musiciens de jazz, les plus classiques et les plus modernes. Et cette forme, elle a des particularités techniques sur lesquelles, évidemment, on ne va pas revenir aujourd'hui. Mais pour le grand public, il y a un symbole de cette forme de musique, c'est ce qu'on appelle la note bleue. Alors la note bleue, plutôt peut-être que de la raconter, eh bien Alex, tu vas nous la jouer avec ton harmonica.
Allez, on va essayer.
Et ben voilà, du blues en direct sur RCF. Et donc finalement, peut-être que tu peux quand même nous en dire un mot de cette note bleue.
Oui, alors le blues, c'est une gamme dite pentatonique parce qu'il y a 5 notes et surtout avec la quinte augmentée ou la quinte diminuée. C'est la dernière note que je vous ai jouée, ce fa dièse qui frotte un peu à l'oreille, mais qui maintenant est devenu familier. Et qui existe depuis quand? Mais depuis la fin du 19e siècle. Hein. La fin du 19e siècle, au début du 20e, on avait ce blues, on vous l'a dit, qui provient du sud des États-Unis. Et après, il y a eu d'autres formes de blues, mais au début, quand même avec des instruments très rudimentaires. Pour la basse, c'était une corde fixée sur un tonneau, un cruchon en terre dans lequel on soufflait. Puis le blues a évolué, mais d'abord avec des instruments simples, la guitare acoustique, le piano et l'harmonica que vous venez d'écouter. La légende raconte en fait qu'un des guitaristes bluesmen, Robert Johnson, aurait signé un pacte avec le diable, ce qui lui aurait permis de devenir un virtuose du blues. Et Blue Devils, c'est une musique liée aux forces maléfiques qui était rejetée et fuie par beaucoup de personnes aux États-Unis. Un des premiers musiciens ensuite à reprendre les airs de blues, c'est, j'aime bien son prénom, W.C. Andy, qui a arrangé le blues et l'a fait interpréter par des chanteurs avec orchestre, et c'est celui qui a écrit également les morceaux parmi les plus célèbres, tels le fameux Saint Louis Blues que nous avons écouté, interprété par Django Reinhardt en début d'émission. Et du point de vue des textes, les premiers blues consistaient souvent à répéter un même vers quatre fois. Et donc le blues, c'est quatre fois trois mesures. Après, on arrive aux années 20 et 30 avec l'apparition de l'industrie du disque et l'accroissement de la popularité des chanteurs tels que Blind Lemon Jefferson, Blind Blake ou Lonnie Johnson. Le premier disque blues afro-américain à être commercialisé fut celui d'une femme, Mamie Smith, en 1920. Mais dans les années 1920, on a eu des chanteuses de blues extrêmement populaires telles que Ida Cox, Victoria Spivey, et surtout nous avons écouté bon nombre de fois la célèbre Bessie Smith. Et la plupart des enregistrements de l'époque furent reconnus quand même sous le terme de Race Records, musique raciale, car ils étaient destinés exclusivement au public afro-américain et blues urbain d'après-guerre. Alors, toujours dans le blues maintenant, je vous propose d'écouter un multi-instrumentiste qui joue de tous les saxophones, mais qui joue surtout très bien de la clarinette basse, c'est James Carter, dans un morceau qui s'appelle Deep Throat Blues.
Eh oui, 12 mesures, c'est la forme classique du blues, comme celui de James Carter qu'on entendait à l'instant. Et Alex, donc, dans cette histoire du blues que tu as commencé à nous raconter aujourd'hui, on a parlé un petit peu de la période classique, mais le blues continue, et il a continué notamment après la Deuxième Guerre mondiale.
Et oui, alors après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans l'urbanisation à outrance et l'utilisation des amplificateurs pour la guitare et pour l'harmonica pour un blues plus électrique. C'est la période Chicago avec Muddy Waters, par exemple. Et c'est ce fameux blues électrique qui va influencer toute une partie du rock and roll. Pendant les années 50, donc ces Noirs américains qui ont migré vers les villes industrialisées du Nord, Chicago, Détroit, Kansas City, amènent ce style de blues avec la guitare électrique, la basse électrique, la batterie et l'harmonica. On arrive dans un style que l'on appelle le blues urbain de Chicago avec des gens comme le grand Willie Dixon qui a eu un impact énorme sur cette musique. Et dans ces modernes, on commence à voir pointer du bout du nez John Coltrane, et c'est lui que nous vous proposons d'écouter dans un morceau qui s'appelle Blues Minor.
John Coltrane, Blues Minor, c'est assez extraordinaire dans cette histoire du blues que tu as commencé à nous raconter aujourd'hui, Alex, de voir à quel point, quelle que soit la forme, d'une décennie à l'autre, on retrouve l'âme de cette musique particulière du blues dans le jazz. Alors, après les années 60, et on en arrive un peu à nos jours, aux années récentes, et tellement... La richesse est grande de cette musique. Il faudra bien en faire deux émissions, Alex, n'est-ce pas ?
C'est une bonne idée parce que je ne vais pas arriver à tout vous raconter. Là. Les années 60, c'est quoi ? C'est le rhythm and blues, c'est la musique soul qui rend le blues populaire. On a ensuite le rock. Le rock, c'est la suite du blues. Et puis, il y a une nouvelle génération d'enthousiastes du blues qui apparaît en Europe et en Angleterre, et qui vont inclure de nombreuses stars de la pop et du rock à venir. Jouent du blues des gens comme Eric Clapton, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Tous ont été influencés à la fois par le blues traditionnel et le blues électrique, et ça a fait découvrir cette musique et venir au jazz tout le jeune public de l'époque. Et à partir des années 80 jusqu'à nos jours, le blues a continué et continue d'évoluer avec des gens comme John Lee Hooker, Carlos Santana, Miles Davis, Eric Clapton, on l'a vu. Et je vous propose d'écouter, pour terminer cette émission sur le blues, du blues réinventé, réinterprété par un musicien de génie qui s'appelait Rasaan Roland Kirk. Et dans un morceau qui s'appelle Hey Babe Peace.
C'est avec Roland Kirk donc que nous allons clore cette première émission sur le blues, Alex, en te remerciant et en remerciant nos auditeurs pour leur attention, et on leur donne rendez-vous très bientôt sur RCF Côte d'Azur.